dans les laboratoires ricains, on a créé une super espèce d'araignée grâce à l'ADN avec un super poison ultra puissant contre les insectes. Elle tue très vite et beaucoup, car elle ne tue pas que pour se nourrir, mais pour tuer. Et en plus, elle se reproduit très rapidement et fait des milliers d'œufs à la fois. Elle n'est pas très grande, même minuscule, marche très vite, n'a pas besoin de voir pour attirer de ses victimes, sa rapidité lui suffit. Le poison est très rapide et sûr. Elle se nourrit que d'insectes, ne nuit pas à l'environnement. On peut déverser des milliers d'araignées dans un endroit où il n'y a plus d'insectes. Ceci est pour les forêts, les villes, mais pas les cultures, puisqu'il y a dans chaque plante caractéristique un produit qui éloigne les insectes. Donc Riquin et son équipe ont élevé cette nouvelle race d'araignées tueuses. Un matin, une femme de ménage casse un des récipients où se trouvaient ses bêtes. Elles partent de tous les côtés. Et même une de ces bêtes monte sur les pieds de la femme qui n'a rien vu. Elle n'a pas entendu le récipient se casser parce qu'elle est sourde. L'araignée monte le long de la jambe et pique la femme. Elle est tombée raide morte. La femme, en tombant, a assommé l'araignée qui est entrée dans la jambe. Les autres araignées se sont dispersées et ont même quitté le laboratoire grâce à un trou d'aération. Une heure plus tard, elles sont toutes éparpillées dans la nature. Rentre dans le laboratoire. Merde ! La vieille ! Et il voit les débris de verre où se trouvaient les araignées. Vite ! Ils appellent Riquin. Allô, monsieur ! Il s'est passé une catastrophe. Il y a la femme de ménage qui est morte. Et à côté, les récipients des araignées qui ont été cassés. Riquin leur dit, il faut faire l'autopsie de la femme. Vite, vite. Bien, monsieur. Une fois l'obtentie faite, Riquin regarde dans son bureau les résultats.
Mort d'un poison, cyanure, trouvé à araignée qui a piqué et empoisonné la pauvre femme.
Prends son téléphone.
Allô, je convoque tous les chercheurs au laboratoire B2, de toute urgence.
Il sort de son bureau pour aller au laboratoire.
Une chose horrible a été faite. On a fait produire du cyanure aux araignées. Et chaque fois qu'elles piquent, elles tuent. Combien d'araignées dans le récipient ? Un chercheur lui dit.
Peut-être 8000, mais elles se reproduisent vite. Toutes les semaines, chacune en fait 200.
Riquin lui dit. C'est une catastrophe. La personne qui a fait l'erreur est renvoyée immédiatement. Les araignées des autres récipients doivent être brûlées.
C'est ce que l'on fait. Et Riquin se demande comment il pourra faire pour récupérer ces sales bêtes. Un homme d'une quarantaine d'années se range chez lui. Il est torse nu, grand, fort, cheveux châtains. Devant son lavabo, arrive du trou du lavabo une petite araignée. Elle monte le long du lavabo au bord. Elle monte le ventre sur le ventre de l'homme et le pique.
Tombé raide mort.
Des gens en voiture sont piqués. Je fais des carambolages énormes. Des gens tombent des fenêtres. Dans la Seine, Tour Eiffel, dans la rue, sur leur lieu de travail. La police et médecins ne comprennent pas ces morts brutales causées par le curare.
Quel est le truc qui leur a mis du curare ? C'est une vraie catastrophe.
Avec ces petites tueuses, car ces petites tueuses se faufilent et tuent de partout.
Riquin cherche avec ses chercheurs des moyens pour les éliminer. Pendant ce temps, l'hécatombe continue.
Les araignées entrent dans les avions, piquent les pilotes. Les avions tombent dans les villes, dans la mer, de partout, ce qui crée des accidents, des morts, des incendies. En panique. Les autorités ne savent pas quoi penser. Ce temps, Rickin a une idée. Il va créer une machine qui va envoyer des ondes pour tuer les araignées. Il va mettre des appareils dans des hélicoptères, ballons, qui vont sillonner la ville et même des avions aussi. Ces ondes, ultrasons spéciaux, vont faire mourir l'araignée et une fois qu'elle sera morte, comme c'est une bactérie qui était dans son corps pour fabriquer le curare. Mais attention, les araignées doivent être brûlées, car si on les touche, on risque encore d'être empoisonné pendant quelque temps. L'araignée a du poison. Donc, les ondes attirent les araignées et les tuent. Et avec des lance-flammes, on brûle les corps. Pendant une semaine, les hélicoptères, les ballons dirigeables, les avions sillonnent la ville. Les ondes qu'ils envoient sont muettes et non nuisibles à l'homme. Les lance-flammes, pour éviter les incendies, sont produits par des rayons laser. Les araignées ont été tirées dans un rayon très limité, sur une place au bord de Seine. Et une fois qu'il y a un groupe important, on y mettra le feu ou un laser. Ceci dure une semaine. Puis, il n'y a plus d'araignées qui sont attirées. Donc, Rickin pense que la chose est finie. Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que des araignées ont eu le temps de pondre et que la ponte se fera que plus tard. Une nouvelle race d'araignées tueuses est née et en liberté sur la terre. Quels ravages va-t-elles faire? Combien seront-elles? Vont-elles envahir la terre? Vont-elles à la longue s'immuniser des ondes? Comment les éliminer? Guillaume se sent bien. Il a des envies de rapport amoureux, ou plutôt physique, soit avec une femme, soit avec un homme. Il ne comprend pas cette ambiguïté et se dit que ce doit être la solitude, le manque de femme. La nuit, il fait des rêves érotiques. Il est pris ou il prend des androgynes dans son lit. Sueur, le sexe qui bande, ça l'énerve un peu. Il se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il ait des rapports avec quelqu'un, autrement il va devenir fou. Pour se calmer, il se masturbe. La journée, il court dans le parc. Il ne dit rien de tout ça à Galien. En voyant Galien toutes les semaines, il s'est bien rendu compte que Galien avait un petit faible pour lui. Et lui trouve Galien gentil. Un soir, qu'ils sont tous deux assis au salon, tous les deux sur le canapé, Galien lui parle.
Je vis seul, trop isolé, sans personne à qui je puisse m'épancher. À part mon travail, je n'ai personne.
Guillaume lui dit, tu exagères, et moi alors? Galien lui dit,
oui, il y a toi, et heureusement qu'il y a toi. Mais je ne te vois qu'une fois par semaine, et la semaine est longue. Et puis, j'ai besoin d'affection que tu ne peux pas me donner. Moi, je t'aime beaucoup, mais...
toi, ce n'est pas la même chose. Guillaume lui dit,
moi, je t'aime bien et j'ai besoin de ton amitié.
Galien lui dit,
merci, tu es gentil. Je suis stupide. C'est un peu de cafard, mais ça passera.
Guillaume réfléchit et lui dit,
c'est normal, tout le monde te demande des choses et personne ne te donne même pas un peu d'affection.
Galien lui dit,
à part toi, Guillaume lui dit, oui, à part moi, mais moi, est-ce que je t'en donne assez?
Galien lui dit, c'est déjà beaucoup.
Guillaume lui dit, arrête, je vais jamais y arriver. Tu crois que c'est facile? Tu me coupes tous mes effets.
Galien lui dit,
quoi?
Guillaume lui dit, rien, lève ses épaules et lui dit,
tu sais, je ne suis pas penché sur tes goûts, mais cela ne m'empêche pas que de te trouver gentil et pas mal, même bien. » Câlin sourit et dit, « Tu te fiches de moi ?»«
Non, pas du tout. Et puis arrête de toujours me couper, ce n'est pas facile.
Voilà, je me dis que tu es très gentil avec moi et comme j'ai envie de te faire un cadeau, comme je vois pas à part ce que tu aimes, ce que je pourrais te donner, j'ai décidé c'est de te faire le cadeau. Voilà. Je vais éteindre la lumière et tu pourras faire tout ce que tu voudras avec moi. »
Kalyan a le souffle coupé, le corps qui bat. Guillaume lui dit, « Tu es d'accord ?»
Kalyan lui dit, « Je ne sais pas, j'ai peur de te perdre. »
Guillaume lui dit, « Allez, on fait un essai. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être bien, peut-être mal. Mais après, tu pourras m'en parler, mais qu'une fois. Alors, oui ?»
Kalyan ne dit rien.
Guillaume se lève, va éteindre la lumière. Et retourne s'asseoir à côté de Galia.
Alors, Galia tremblant tend les bras et touche le corps de Guillaume. Puis, pris de fougue, il se plaque contre lui. Il lui couvre de baisers sur le visage. Puis, il soulève son pull. Il est pris de vertige. Sous le pull, il est nu. Caresse ce corps qui a tant désiré. Doux et ferme. Ensuite, il descend. Il lui fait la ceinture de son pantalon. Et son pantalon. Enfin, il a la main sur son sexe. Par-dessus, par son slip. Le sexe est bandé. Il descend le slip tout doucement. Galia se soulève. Guillaume se soulève. Sent que la peau de ses fesses est moins douce, plus rêche qu'il ne le croyait.
Guillaume lui dit, « On va dans la chambre ?»«
Oui. »
Guillaume se lève, Galia le suit, silhouette blanche dans le noir. Ils sortent du salon pour aller dans la chambre. Laissons fermer la porte de la chambre.
Et on les laisse dans leur intimité. Tout le monde a besoin d'intimité, même mes personnages. Je leur en laisse très peu. Or, pour une fois, laissez-les dans leur joie de se retrouver. En tout cas, dans la joie de Galien. Car, pour Guillaume, il ne se souvient plus de leur ancien ébat et d'avant son accident. Si vous vous souvenez de tout ça. Des fois, je me demande comment vous pouvez vous souvenir de cette histoire et de ces personnages. Car l'histoire est très longue et ce doit être difficile de se rappeler tout ce qui s'est passé. Pour les personnages, j'en ai mis très peu pour éviter que vous soyez perdus dans tout ça. Il y a Galien, Guillaume, Danfort, Riquin, David, que vous vous souvenez, le jeune qui tue les dames, un tueur de dames, Madame de Flory, Philippe, les parents de Galien, Lucien, Pascal et quelques autres. Ce n'est pas beaucoup, surtout pour une histoire qui a au moins 3000 pages et grandes pages. J'en suis en ce moment à la page 1849. J'ai hâte de finir tout ça. Je suis très fatigué. Mais on y arrive, donc. Voilà.
Pendant que je vous ai dit tout ça, ils ont eu le temps de faire l'amour. Donc, après l'amour, ils sont enlacés dans le lit. Guillaume lui demande « Alors ?» Galien sourit. Guillaume lui dit « Tu ne dis rien ? Pas déçu ?»«
Non, très bien. Tu es très beau et doux. J'aime ton corps. Et toi ?»
Guillaume lui dit « Moi ? Tu sais, il suffit qu'on me touche pour que ça marche. »
Galien est triste. Guillaume le voit et lui dit « C'était bien, mais tu sais, tu n'es pas mon genre. J'ai fait ça pour te faire plaisir. Je suis plutôt actif d'habitude. Enfin, je le crois. »
Galien lui dit « Tu as été aussi actif ?»
Guillaume lui dit « Non, c'est toi.
Mais toi aussi, tu avais des mouvements très actifs. Tu m'as même guidé à un mouvement. »
Guillaume lui dit « C'est pas ça, vraiment ça. Être actif, c'est autre chose. »
Galien lui dit
« Alors ça t'a pas plu ?»«
Je ne dis pas ça. Mais je t'ai fait ça, c'est surtout pour te faire plaisir.
Surtout pour ça. Raconte-moi ton plaisir. J'aime savoir ce qu'on aime, ce qu'aiment les autres avec moi. »
Galien lui dit « C'est ton côté vicieux ?»«
Non, pas du tout. De toute façon, c'est mon corps, il est à moi, je peux en faire ce que je veux. Même si je décide un jour de me prostituer, personne n'a à me faire de réflexion. »
Galien lui dit « Si, moi. » Guillaume lui demande « Et de quel droit ? C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. »
Galien lui dit « Tu dois que je t'aime ?
Je ne suis pas ta chose. »
Galien boude. Guillaume lui dit « Ne boude pas. Je viens de faire un cadeau, tu sais, et tu dois être content. J'ai pas dit que j'allais le faire. »
Galien lui dit « Si un jour tu le fais, j'en serai très malheureux. »
Guillaume lui dit « Tu n'auras pas à être malheureux, parce que je l'aurais décidé.
Allez, parlons plus de ça.
Ça t'a plu ?
Oui.
Bien alors, sois heureux et souris un peu. »
Galien sourit. Guillaume lui donne un baiser sur la joue.
Et lui dit que tu es bête.
Ils sont restés un moment allongés comme ça, sans rien se dire. Puis, au matin, se sont levés et ont repris leur vie.
Guillaume dit à Galien, surtout ne me parle plus de ce que nous avons fait.
J'ai fait pour te faire plaisir. C'est un cadeau, rien d'autre.
Alors Galien ne lui en parle plus.
Mais il y pense sans arrêt. Et la nuit, dans sa chambre à Paris, il en rêve. Il se dit avec amertume que peut-être il ne fera plus cela. Et cette idée lui fait mal, très mal. Il se dit des fois qu'il aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire. Comme cela, il n'en aurait pas d'amertume. Des fois, il est pris de fureur et se dit que ce n'est pas juste, qu'il fait tout pour Guillaume et qu'avant son accident, ils étaient amants. Et que maintenant, c'est fini. Mais alors, pourquoi ce cadeau ? Peut-être, inconsciemment, l'aime-t-il ou le veut-il encore ? Que son corps le désire ? Mais qui n'ose pas le lui dire, que c'est peut-être à lui, Galien, de faire le pas.
Mais s'il fait le pas,
est-ce que ça met en colère Guillaume, qui ne veut plus le revoir? Non, il vaut mieux pas. Toutes ces idées contradictoires étouffent Galien. Il a hâte de voir Guillaume, qui peut-être lui fera un cadeau. Il ne
faut pas non plus qu'il espère trop, parce que la déception sera trop forte. Enfin, le vendredi après-midi est là, à 17h, il prend la voiture pour aller au château retrouver Guillaume. Il a hâte et en même temps, il a peur. Et si ça ne se passait rien, cela va lui faire mal. Laure était arrivée de prendre la voiture. Il est entré dans la voiture sans angoisse. Il a hâte d'arriver en même temps. Il aimerait que le trajet dure toujours. Car il semble qu'en étant loin de Guillaume, il peut penser et rêver à lui. Tandis que près de lui, il va être très anxieux, nerveux. Pour être heureux près de lui, il va constamment se dire « Est-ce que oui ou non, il va me permettre de passer un moment avec lui ?» Enfin, il arrive en début de soirée. Guillaume est sur le perron comme d'habitude pour l'accueillir. Il sort de voiture. Bonjour. Bonjour, tu as fait mon voyage ? Oui, merci. La même banalité. Le jus de tomate et les amuse-gueules sont prêts. Guillaume lui demande « Alors cette semaine s'est bien passée ?»« Oui, comme d'habitude. » Malgré lui, Galien est tellement excité qu'il a les sueurs froides et les jambes bougent tout le temps. Pour arrêter cette excitation, il aimerait c'est que Guillaume lui dise « Allez, viens, on va dans la chambre. » Mais non, tout est comme d'habitude. Alors, les amuse-gueules et la boisson. Pendant le repas, Guillaume lui lit ce qu'il a écrit pour ses chansons. Galien est trop excité pour les apprécier.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La deuxième époque de Violence et Crépuscule, Immami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.